juste après la naissance, l'Église fête la Sainte Famille. Bravo la famille, hein. Quand on voit les deux familles qu'on a eues aujourd'hui, on se dit, finalement, nos familles sont finalement pas si mal que ça, quoi. Je résume. Première lecture, Samuel. On n'arrive pas à avoir un enfant, on arrive à avoir un enfant par intervention divine, et qu'est-ce qu'on fait quand il est sevré? On le met au temple. Que ça soit Élie qui l'élève. Les deux parents, finalement, ont eu la joie d'être parents. Et puis l'enfant est consacré au Seigneur. Alors d'un côté positif, c'est génial, ils donnent leur enfant à Dieu. De l'autre côté, ils acceptent de ne plus être auprès de leur enfant. Il y a quelque chose de bizarre dans cette famille-là. L'autre famille, la Sainte Famille. Alors, on ne revient pas sur comment Marie est tombée enceinte et la naissance, hein, ça, c'est assez particulier. L'action de l'Esprit Saint, n'est-ce pas, est quelque chose d'extraordinaire. Enfin, quand même, à 12 ans, il fait une fugue. On se dit, les enfants en fugueur, c'est des enfants qui ne sont pas bien chez eux. Est-ce qu'on peut vraiment dire ça de Jésus? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi Saint Luc, qui a fait un travail exhaustif pour savoir tout ce qui s'est passé pour vous, cher Théophile? C'est le début de son évangile, donc il est allé voir ce qui se passait. Alors, s'il nous précise cela, c'est que ce pèlerinage n'est pas tout à fait un pèlerinage habituel. Tous les ans, on monte trois fois à Jérusalem. Hein. Tous les dimanches, on va à la messe, mais quand on est juif, tous les ans, on monte trois fois à Jérusalem pour les grandes fêtes, et on fait le Shabbat tous les samedis à partir du vendredi 17h. On consacre une journée entière à Dieu et on monte trois fois par an en pèlerinage. On se déplace pour aller rendre visite à Dieu, pour recevoir toutes les grâces possibles et imaginables. Chrétiens, on va tous les dimanches à la messe, bien sûr, et on se rend en pèlerinage de temps en temps, ça serait bien quand même, hein, pour aller recevoir toutes les grâces que Dieu veut nous offrir, parce qu'il veut nous en offrir. Là, Luc nous dit, il avait 12 ans. Il a eu 11 ans, 12 ans, 13 ans, 8 ans, 14 ans, et le pèlerinage, il le faisait. Alors pourquoi ce pèlerinage est particulier? Pourquoi est-ce que Luc insiste tant sur l'âge de l'enfant Jésus? Alors quelques commentateurs, et moi aussi, je signe en bas à gauche, disent peut-être que c'est le temps où Jésus est devenu adulte dans la foi, qu'il a fait sa bar mitzvah, hein, la confirmation. Enfin, il devient le 10e homme, c'est-à-dire qu'avec lui, on peut mettre en place un culte qui est véridique. Il faut 10 hommes pour pouvoir rendre un culte au Seigneur. Et maintenant, il est ce 10e homme. Il connaît les 613 commandements de la Torah. Il peut les appliquer. En fait, 613 commandements, c'est-à-dire qu'il faut toujours choisir quel est le commandement qui s'applique au moment précis de mon histoire. C'est pas « je ne dois pas faire telle et telle et telle et telle, telle chose ». C'est « j'ai plusieurs choix, il faut que je choisisse le bon ». Sachant que je réponds toujours au commandement de la vie. Puis après, les autres vont en se déclinant. La famille est montée en pèlerinage pour Pâques, pour le passage, hein, quand Dieu nous a libérés. Et le pèlerinage a lieu au Mont Moria, là où la tradition situe la ligature d'Abraham. Ça voit, là où Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac. C'est là où, en fait, Abraham a découvert qu'il devait laisser son enfant vivre son histoire, que le petit Isaac n'était plus soumis à l'autorité de son père, qu'il était un adulte et qu'il pouvait prendre sa propre décision. Ce qui a été sacrifié au Mont Moria, c'est pas l'enfant, c'est la conception du pouvoir paternel. Mon enfant doit m'obéir et doit devenir un autre moi-même. Et c'est à ce moment-là où Abraham comprend qu'il y aura une vie pour son fils, et à partir de là, on a toute la vie d'Isaac qui se met en place, et on va pouvoir le suivre dans la suite du Premier Testament. Donc, on monte voir Dieu à l'endroit où l'on découvre sa liberté. Et on situe là, ce passage à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc, c'est bien qu'il y a un avant et un après. Avant, Jésus leur était soumis. Après, Jésus devient le dixième homme capable d'avoir une parole, de faire un choix, de conduire la prière, de lire la Torah et de la commenter en public. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Au bout d'une journée, les parents se disent « Il est peut-être resté à Jérusalem ». Ils vont le chercher, ils le trouvent dans le temple, assis, en train de commenter la Torah avec d'autres hommes, avec d'autres rabbins, avec les rabbins. En fait, on assiste au culte de la synagogue. Si aujourd'hui vous allez dans une synagogue, bien, le grand travail de la synagogue, c'est de lire la Torah et de la commenter. Les hommes, les femmes aussi, se rencontrent et commentent la Torah. Ils prennent un verset et ils essayent de le comprendre et de voir les occurrences de ce verset dans toute la Torah et quels sont les liens possibles et qu'est-ce que cela veut dire. Pour moi, le culte de la synagogue, depuis qu'il n'y a plus de temple à Jérusalem, depuis qu'on n'égorge plus des veaux, des taureaux et compagnie, c'est ça. C'est comprendre la parole de Dieu pour en vivre. Et c'est ce qui se passe avec Jésus et les docteurs de la loi. Ils comprennent la parole de Dieu pour en vivre. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui s'applique à nous aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne s'applique pas à nous? Comment on vit? Comment est-ce qu'on comprend? Là, on a Marie et Joseph qui arrivent tout affolés. Les bons parents qui ont laissé leur gamin s'échapper. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Viens prendre ta fessée, en gros. Non, mais c'est pas pour toi. Viens prendre ta fessée. Pourquoi est-ce que vous me cherchez? Ne suis-je pas un homme aujourd'hui? Ne suis-je pas quelqu'un qui est responsable de la loi? Donc responsable des autres? Responsable de ce qu'il faut faire et pas? Pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas qu'il me faut être aux affaires de mon père? Que mon père est celui qui a écrit, dicté, inspiré la Torah, et que la comprendre, c'est le rôle de tous ses enfants, et de Jésus en particulier, pour la faire assimiler après à tous ceux qui sont en recherche, en espérance de quelque chose, c'est-à-dire à nous aujourd'hui, Jésus nous fait comprendre la loi, mais la loi véritable, celle du cœur, celle que Dieu veut, non pas la loi qui a été donnée aux hommes pour qu'ils arrivent à sortir du monde de la bestialité et arriver vers un monde d'humanité. Non. La loi d'amour que Dieu incarne en son Fils Jésus-Christ. Et c'est ça qu'il est en train de commenter. Et c'est ça que Joseph et Marie ont du mal à comprendre. Il va falloir qu'ils mettent fin à leur domination sur leur enfant Jésus, qu'ils acceptent que Jésus devienne ce qu'il est. Marie a une vague connaissance, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Joseph a entendu « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse ». l'enfant qui est enfanté en elle vient de l'Esprit Saint. Ils ont une vague idée de qui est cet enfant, mais ils ne savent pas encore comment il va se réaliser. Et comme tout parent charnel, ils croient que leur enfant va se réaliser par leurs paroles, par leur exemple, par leurs contraintes. Et là, on apprend qu'il y a quelqu'un d'autre qui intervient dans l'éducation de l'enfant, c'est Dieu lui-même. Et nous devons aussi accepter que l'éducation de nos enfants, c'est un nous de majesté, hein, excusez-moi. C'est qu'une petite partie de l'éducation des enfants, c'est, allez, 20, 25, 30%, et que le reste de l'éducation est fait par les amis, par les réseaux, par la télé, par l'école, et pourquoi pas par Dieu lui-même. Est-ce que Dieu ne serait pas capable d'informer en direct nos enfants pour qu'ils deviennent vraiment ce don qui est fait à l'humanité? Chaque enfant est un don qui est fait à l'humanité. Marie et Joseph doivent le comprendre, ils gardent cela dans leur cœur, et Jésus comprend aussi que ses parents ne sont pas prêts encore. Alors il leur est soumis et il grandit avec eux. C'est-à-dire que les parents aussi grandissent avec Jésus. Comme chaque parent, vous avez grandi avec vos enfants jusqu'au moment où vous avez pu les laisser aller et vous émerveiller de ce qu'ils sont devenus. Et en vous disant « Merci Seigneur, on a réussi à… » Et c'est un « on » ensemble, nous parents charnels et toi, Père éternel de nos enfants. Alors, la Sainte Famille, c'est cela. C'est mettre chacun à sa place et accepter que l'enfant grandisse aussi sous le regard de Dieu, avec Dieu. Et que nous n'avons qu'à le mettre sur ce chemin, les mettre sur ce chemin, et que Dieu fera le reste. Alors, si la Sainte Famille est sainte, c'est pas par l'exemple parfait du père, de la mère et des enfants, c'est par ce chemin de désappropriation de leur propriété, d'offrir leur enfant à Dieu, comme Anne l'a offert à Dieu dans le sanctuaire, pour que ce Samuel devienne qui nous savons. Amen.